Le journal est présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Faire bloc face au communautarisme, mais sans stigmatiser les musulmans. Emmanuel Macron a pris la parole ce soir pour tenter de mettre un terme à la polémique sur le voile. Le sujet divise la majorité présidentielle. Dossier dans ce journal. Donald Trump menace à nouveau la Turquie de graves sanctions économiques si l'armée turque poursuit son offensive en Syrie. Le vice-président américain Mike Pence sera à Ankara demain pour rencontrer le président Erdogan. La correspondance d'Anne Andloer. Comment travaillent les journalistes qui couvrent cette offensive turque? Nous en parlerons avec l'invitée de cette édition, Catherine Monet, rédactrice en chef adjointe à Reporters sans frontières. La polémique grandissante sur le port du voile aura donc obligé Emmanuel Macron à sortir de sa réserve à l'issue du sommet franco-allemand de Toulouse ce soir. Le président a appelé à ne pas stigmatiser les musulmans. Le chef de l'État qui espère ainsi clore la controverse provoquée par un élu du Rassemblement National. En pleine séance du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Julien Audoul avait pris à partie une mère de famille voilée présente dans le public avec un groupe d'enfants. Depuis, la classe politique se déchire sur la nécessité ou non d'interdire les sorties scolaires aux femmes voilées. Hier à l'Assemblée, Édouard Philippe avait exclu de légiférer sur la question. L'intervention du Premier ministre n'aura pas suffi à éteindre l'incendie, d'où peut-être l'intervention d'Emmanuel Macron ce soir. On retrouve à Toulouse Julie-Marie Lecomte.
Faire bloc contre la radicalisation, c'est ce qu'Emmanuel Macron aurait aimé que l'on retienne de son discours du 8 octobre après l'attaque à la préfecture de police de Paris. Faire bloc, rappelle le chef de l'État, l'expression associe tous les Français, quelle que soit leur confession et leur conviction. Il tient à le préciser. Emmanuel Macron estime que depuis, tout a été confondu dans le débat et dans les commentaires. Il appelle à ne pas stigmatiser. Lutte contre le terrorisme, lutte contre la radicalisation, lutte contre le communautarisme ne signifie pas lutte contre l'islam, une religion qui doit respecter les lois de la République, rappelle le président, qui sur ce point se promet intransigeant, mais il dénonce les raccourcis. La laïcité, c'est respecter la liberté de croire ou de ne pas croire. Concentrons-nous sur l'essentiel des menaces, ne nous divisons pas, réclame-t-il, en continuant de soutenir ses ministres et leur action, sans condamner leurs déclarations. Dimanche, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, disait par exemple publiquement considérer que le port du voile n'est pas souhaitable, car il n'est pas, selon lui, conforme aux valeurs de la République.
Julie-Marie Lecomte, depuis Toulouse. J'ajoute que selon France Info, Emmanuel Macron aurait évoqué le risque de guerre civile suscité par les amalgames entre les questions d'immigration, de radicalisation, de communautarisme et de laïcité. Cette question du voile qui commence à diviser sérieusement la majorité. Ainsi, la députée Aurore Berger, porte-parole de La République En Marche, se dit prête à voter une loi interdisant les sorties scolaires aux femmes voilées. Une loi proposée par le député Les Républicain Éric Ciotti. Cette initiative d'Aurore Berger a aussitôt été condamnée par plusieurs députés LREM sur Twitter sous le hashtag « Not in my name », pas en mon nom. À l'évidence, il y a au sein de la Macronie des sujets identitaires qui ne font pas l'unanimité. Je vous propose d'écouter l'analyse du politologue Benjamin Morel, professeur à l'université Panthéon-Assas.
Il y a des éléments pour les familles de droite et pour les familles de gauche qui rappellent une identité partisane. C'est notamment les questions sociétales, les questions de la PMA, etc., et les questions migratoires. Là-dessus, vous avez malgré tout une cohérence et une cohésion qui a défini la gauche et qui a défini la droite. Et ça, évidemment, quand vous voulez émerger au-dessus de ces courants traditionnels, c'est plus compliqué. Si vous voulez, l'agrégat des gauches et des droites est une conjoncture historique qui a été relativement stable depuis, on va dire, la période gaulliste. Ce qu'a fait Emmanuel Macron, c'est tenter de construire une autre conjonction qui a également sa pertinence entre une deuxième gauche et une droite plutôt orléaniste. Cette conjonction-là, elle a un certain nombre de points de cohérence, mais elle a également un certain nombre de faiblesses. Et quand vous êtes président de la République, que vous visez 2022, il faut aller chercher d'autres catégories de la population. C'est ce qu'essaye de faire Emmanuel Macron aujourd'hui en remettant des thématiques plus identitaires sur le devant de la scène, aller chercher les classes moyennes, aller chercher les classes populaires. Donc cette stratégie-là, elle peut être payante sur une partie du champ électoral, mais avec le risque de perdre une autre partie du champ électoral, dont on voit aujourd'hui qu'une partie de l'électorat du centre-gauche, eh bien, lorne plutôt vers Europe Écologie des Verts, alors que l'électorat de base d'Emmanuel Macron, c'est plutôt déplacé à droite.
Le politologue Benjamin Morel, il répondait à Pierre Neveu. En Syrie, les troupes du régime Assad sont entrées ce soir à Kobané, ville martyre défendue par les Kurdes face à l'État islamique. Mais aujourd'hui, les Kurdes ont besoin de l'armée syrienne pour résister à l'offensive turque. Leurs combattants tiennent toujours ce soir la ville clé de Ras Al Ain. Sur le front diplomatique, le vice-président américain Mike Pence sera en Turquie demain pour rencontrer le président turc Recep Tayyip Erdogan. Donald Trump se défend d'avoir donné son feu vert à Ankara pour envahir la Syrie. Mais l'offensive turque est la conséquence directe du retrait des soldats américains. Depuis, la Maison-Blanche menace de sanctionner durement la Turquie. Anne Andloer nous appelle d'Istanbul.
Le soutien des États-Unis aux forces kurdes de Syrie était déjà l'objet d'une crise rampante entre Ankara et Washington ces 5 dernières années. L'offensive de la Turquie contre ces mêmes forces kurdes risque d'en être le point culminant. Les premières sanctions décrétées cette semaine par la Maison-Blanche, finalement assez limitées, n'ont pas créé beaucoup de remous à Ankara, Recep Tayyip Erdogan estimant que Donald Trump souhaitait surtout apaiser le Congrès. Il en ira tout autrement si le président américain décrète d'autres sanctions, comme il a menacé de le faire, et si le Congrès américain punit à son tour la Turquie avec un projet de représailles qui viserait notamment le président Erdogan lui-même. Le chef de l'État turc a confirmé qu'il rencontrerait ce jeudi la délégation menée par le vice-président Mike Pence, mais on voit mal ce que ces derniers peuvent obtenir de lui. Non seulement Tayyip Erdogan refuse toute offre de médiation avec les forces kurdes, mais il exige leur retrait total et sans leurs armes du nord de la Syrie pour arrêter son offensive. Les relations entre les deux alliés de l'OTAN sont tellement tendues que Recep Tayyip Erdogan, qui avait annoncé dans un premier temps qu'il se rendrait à Washington le 13 novembre à l'invitation de Donald Trump, sème désormais le doute. Il dit attendre sa rencontre avec la délégation américaine pour prendre sa décision.
Anne Andloer, correspondante de RFI en Turquie. On notera aussi ce soir cette nouvelle déclaration surprenante de Donald Trump. Pour le président américain, les Kurdes du PKK constituent une plus grande menace terroriste que l'État islamique. Le PKK, c'est le parti des travailleurs du Kurdistan qui mène la guérilla contre la Turquie depuis plusieurs décennies. On va maintenant s'intéresser au travail difficile des journalistes qui couvrent l'offensive turque en Syrie avec l'invité de ce journal, Catherine Monet, rédactrice en chef adjointe de Reporters sans frontières. Bonsoir.
Bonsoir.
Catherine Monet, vous dites à RSF que le nord de la Syrie est en passe de devenir un nouveau trou noir de l'information. C'est donc une zone où les journalistes ne pourraient plus travailler ?
Oui, effectivement. Alors jusqu'à présent, le nord-est de la Syrie, depuis 2015, était une zone, je dirais un petit peu une zone grise, qui était où il était possible pour les journalistes de travailler sous le contrôle des forces démocratiques syriennes, une coalition arabo-kurde. Les journalistes, bon, c'était pas simple, c'était dangereux, mais les journalistes pouvaient y travailler. Et on a un véritable changement de situation avec le déclenchement de l'offensive turque et surtout, depuis dimanche, le déploiement, l'arrivée des forces du régime syrien. Ça change complètement la donne, les risques ne sont plus les mêmes. Alors, d'abord, on a une guerre asymétrique, quand même. Là, aujourd'hui, les journalistes se retrouvent dans un conflit qui implique la deuxième armée de l'OTAN, la Turquie. Ce n'est pas tout à fait la même chose qu'auparavant. On a aussi un chaos qui s'est accentué en raison de l'offensive turque au niveau et un terrain sécuritaire qui est devenu plus dangereux. C'était une zone où il y avait encore des cellules dormantes de l'État islamique, où il y avait encore des djihadistes, mais qui faisaient occasionnellement des attentats suicides. Mais le chaos ambiant et l'offensive rend leur intervention encore plus facile. Ça, c'est un deuxième risque. Et puis surtout, aujourd'hui, ce qui est problématique pour les journalistes étrangers, c'est qu'ils risquent d'un jour à l'autre de se retrouver coincés dans un territoire qui va passer sous le contrôle des forces de Bachar al-Assad, du régime syrien. Pour l'instant, le point de passage pour les journalistes qui arrivent par l'Irak, par le point de passage de Semalka, est encore ouvert. Il est encore sous le contrôle des forces arabo-kurdes, des FDS. Mais si la zone passe demain sous le contrôle des soldats du régime syrien, alors les journalistes se retrouveront dans un territoire où ils seront considérés comme illégaux et où ils peuvent être arrêtés ou enlevés. C'est effectivement une situation sécuritaire extrêmement dangereuse qui explique pourquoi aujourd'hui les journalistes étrangers quittent la zone.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de journalistes indépendants qui peuvent encore travailler en Syrie dans les zones sous contrôle kurde ?
C'est évident qu'aujourd'hui, les conditions sécuritaires ne permettent plus de travailler dans de bonnes conditions. Alors bien sûr, il reste toujours des journalistes, ce qu'on appelle des journalistes locaux, des journalistes kurdes, mais ils affrontent et ils travaillent dans des conditions extrêmement difficiles.
Et justement, deux journalistes kurdes sont morts dimanche dans un bombardement turc. Est-ce que la Turquie s'en prend délibérément à la presse ?
Je n'irai pas jusqu'à là. Ce que l'on sait, c'est que c'est très compliqué pour les journalistes pro-kurdes de travailler. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il relate, par exemple, c'est interdit quasiment pour les journalistes kurdes de citer nommément un communiqué d'une organisation kurde qui serait affiliée ou en tout cas considérée comme proche du PKK et donc d'une organisation terroriste. Et là, actuellement, on a une zone depuis le début du déclenchement de l'offensive turque contre le nord-est de la Syrie. Il y a eu un vaste coup de filet dans les milieux internautes kurdes, parmi lesquels il y a eu notamment 5 journalistes kurdes arrêtés. Donc on voit bien que c'est un contexte très délicat pour les journalistes kurdes de travailler dans cette zone, en tout cas côté turc. Et pour les journalistes étrangers, si c'est un petit peu plus facile, ils sont visiblement sous haute surveillance quand même. On a eu un incident récemment avec une équipe de France 24 qui a été suivie après avoir interviewé justement des représentants considérés proches du PKK et qui ont dû finalement quitter la zone.
Est-ce que les Kurdes laissent travailler les journalistes occidentaux ?
Alors, cette zone-là a toujours été un peu une zone grise, hein, où il y a les journalistes pouvaient travailler, mais où il y avait énormément de rumeurs, de désinformations. Les journalistes occidentaux pouvaient facilement travailler, y compris avec le soutien des forces démocratiques syriennes, quand c'était dans des zones qui étaient quelque part balisées, comme par exemple au moment de pour couvrir la fin de l'État islamique, pour couvrir la prise du dernier bastion de l'EI à Baghouz. Les journalistes étrangers ont pu travailler. Après, d'après les témoignages que l'on a pu recueillir, on constate que ça a toujours été très difficile pour les journalistes qui voulaient sortir un peu des sentiers battus, ça a été toujours très difficile pour eux de travailler. Jamais on leur refusait des autorisations, mais c'est une forme d'organisation assez étatique où pour aller dans le moindre village, il faut une autorisation. Et en fait, concrètement, cette autorisation met parfois tellement de temps à arriver qu'au final, ça constitue une sorte d'entrave au travail journalistique. Donc on avait un petit peu jusqu'à présent une situation de deux poids, deux mesures dans ces zones-là.
Catherine Monet de Reporters sans frontières, merci d'avoir été l'invitée de France Culture ce soir. Au Maroc, le roi Mohamed VI a finalement gracié la journaliste Hajar Ressouni. Cette jeune femme de 28 ans avait été condamnée pour avortement illégal et relations sexuelles hors mariage. L'affaire avait scandalisé une bonne partie de l'opinion publique marocaine. Ce soir, Hajar Ressouni est sortie de prison avec son fiancé et son médecin, condamnée en même temps qu'elle. Théa Olivier nous appelle de Casablanca.
La journaliste Hajar Ressouni avait été condamnée le 30 septembre à 1 an de prison ferme ainsi que son fiancé. Le médecin lui avait écopé de 2 ans de prison pour pratique d'avortement illégal. Des peines lourdes qui avaient indigné les défenseurs des droits humains ainsi que les militants féministes au Maroc. Ils avaient tout de suite demandé la libération des 5 prévenus. Hajar Ressouni et le médecin ont toujours nié l'avortement. La jeune femme a plaidé avoir consulté en urgence pour une hémorragie interne. La journaliste et ses proches ont aussi dénoncé un procès politique lié à son travail journalistique engagé et à sa famille. L'un de ses oncles est rédacteur en chef d'un journal indépendant arabophone, l'autre est fondateur d'un mouvement islamiste d'opposition. Ses proches sont déjà en route pour l'accueillir à sa sortie de prison.
Théa Olivier, correspondante au Maroc. Le feuilleton du Brexit, un vent d'optimisme souffle ce soir à Bruxelles après des discussions marathon pour tenter de trouver un accord avec Londres. Je veux croire qu'un accord est en train d'être finalisé, voilà ce qu'a déclaré Emmanuel Macron en marge du sommet franco-allemand de Toulouse. On y est presque, c'est prometteur, a également indiqué à l'AFP une source européenne rapportant que l'ensemble des points problématiques étaient réglés sauf l'application de la TVA pour l'Irlande du Nord. L'homme de Vitruve, le célèbre tableau de Léonard de Vinci, sera bel et bien exposé au Louvre dans le cadre de la grande exposition consacrée au maître de la Renaissance. C'est le tribunal administratif de Venise qui en a décidé ainsi aujourd'hui. La justice italienne avait été saisie par une association de défense du patrimoine, Italia Nostra, qui n'a pas été entendue. La grande exposition du Louvre à Paris sur Léonard de Vinci doit être inaugurée mardi prochain. La météo demain, pluvieuse sur une bonne partie du territoire, du sud-ouest au nord-est. Ailleurs, le ciel sera variable. Les températures minimales iront de 9 à 16 degrés du nord à la Méditerranée. Les maximales seront comprises entre 14 et 24 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Beneteau.